mais c'est sa manière d'être universelle. Est-ce que c'est clair ce que je dis, okay? Et vous avez remarqué à quel point Israël est fasciné, enfin l'Israël israélien contemporain, est fasciné par les perspectives de projets économiques avec les États arabes. Vous avez remarqué ça? Mais je referme la parenthèse. Pour cet exemple-là. Le deuxième exemple, c'est l'exemple d'Ésaü, et comme vous savez, pour la typologie rabbinique, Ésaü est le principe de la civilisation romaine, la civilisation romaine païenne, puis chrétienne. Alors Ésaü demande, qu'est-ce qu'il y a écrit dans ta Torah? Et Dieu répond, tu ne tueras pas. Et Ésaü répond, je ne peux pas. Je ne peux pas. La bénédiction de mon père, c'est tu vivras de ton épée. Et tout se passe comme si, effectivement, l'histoire rend compte de cela. La civilisation issue de Rome a été une civilisation qui a vécu de son épée, la fabrique des armes. On leur a donné un coup de main. Pour fabriquer les chars d'assaut, on avait un certain Marcel qui était Marcel Dassault, d'origine juive, c'était pas un juif, mais d'origine. Et c'est une chose inouïe, cette civilisation qui vit de son épée. Elle vit de la fabrique des armements qu'elle vend aux autres peuples pour qu'ils s'entrégorgent. C'est sorti des sociétés européennes. Et dans un sens que même un pays pacifique comme la Suisse a un budget, a une économie qui tourne autour de la fabrique des armes impressionnante. Mais en tout cas, surtout que les principes de la politique de certains États dépendent des intérêts industriels des fabriques d'armement. Je ne sais pas si vous savez cela. Enfin, je mets ça en évidence. Et alors, donc je reprends la même question. De quoi on parle ici? On parle de ce qu'on appelle en hébreu le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est l'instinct du mal, la tendance au mal. C'est-à-dire, dans la nature humaine, il y a un Yetzer Hara. Alors, ça se traduit culturellement. C'est des questions de culture, finalement. En Ishmaël, c'est plutôt l'Otignol. À Rome, c'est plutôt le Tirzah. Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est pas la peine de prendre du temps pour analyser. Mais ça veut dire quoi? Bon, c'est ainsi que la tendance au mal qu'il y a dans la nature humaine s'exprime dans telle ou telle culture. Mais quelle que soit la faute et l'énormité de la faute, est-ce que la clause du repentir ne compense pas ce risque de la faute? Vous voyez à quel problème on est confronté. Alors la réponse est que tout se passe comme si, en dehors d'Israël, il y a incapacité de maîtriser la notion de la possibilité du repentir, que le repentir est possible et efficace. Après, je reprendrai le problème sur l'objection qui doit être sur toutes vos lèvres, qui est, mais quand même, les non-juifs parlent de repentir de la faute. De quoi s'agit-il alors? Mais je voulais à la racine mettre ça en évidence. Pourquoi, selon ce midrash, les nations du monde refusent la Torah? C'est parce qu'elles sont incapables de penser que même s'il y a faute, on peut retrouver la revirginisation de la conscience morale par le repentir. C'est comme ça que le midrash et le Talmud expliquent ce cas particulier qu'Israël seul a reçu la Torah. Est-ce que c'est clair jusque-là? Et nous avons d'ailleurs un midrash très connu qui nous dit que Dieu a créé six choses avant la création du monde. C'est-à-dire, Dieu a fait exister les six conditions pour lesquelles le monde a un sens. Je ne vous énumère pas ces six choses, mais il faudrait les énumérer. Et puis, le midrash ajoute, et une septième, le repentir. Ça veut dire que le repentir est une des valeurs qui est indispensable pour que le fonctionnement du monde soit possible. Avant que le monde ne soit créé dans la réalité de l'existence, il fallait que Dieu surmonte cette impossibilité qui s'appelle le repentir. Que si une faute a été faite, on peut l'annuler. Parce que sinon, le fonctionnement de l'existence mène à la damnation. Si on ne peut pas réaliser le tikkun, la rédemption. Non, rédemption c'est kapara. Mais le tikkun, c'est la restauration de ce qui a été détraqué par la faute. Alors, le monde ne peut pas fonctionner. Dès qu'il commence à fonctionner, c'est sa damnation. Et oui, il y a ici une vision du péché originel qui est en dehors des catégories de la tradition juive, pour en parler, qui est cette vision tragique que dès que l'histoire commence à fonctionner, la faute mène le monde à la damnation. Mais à quel point cette lecture du péché originel n'est pas juive. Ça a été hypertrophié par la conscience grecque lisant la Bible des Hébreux. Et je vais donner ça un peu pour détendre un peu l'atmosphère. Vous allez voir qu'est-ce que c'est que l'humour juif. Voilà, donc comment on lit ce récit ? Que le premier homme, je veux dire à quel point les gens pieux ne se rendent pas compte, comment on dit ça en français, des limites de l'absurde, enfin de l'invraisemblable. Voilà ce qu'on nous raconte. Le premier homme, c'est-à-dire la première créature qui a eu le courage d'accepter les attendus de la destinée humaine. Il fallait le faire, d'être homme. Il y a une ingratitude vis-à-vis du premier homme qui est colossale dans ce type de religion, type péché originel. C'est grâce à Adam et Chava qu'on existe, mais on les charge des péchés de l'humanité. C'est les premiers juifs, Adam et Chava, bouc émissaire. Je ne sais pas si vous savez que tous les vendredis soirs, nous avons sur la table du vendredi soir la Askara de Adam et Chava. Les deux bougies qu'on allume, une pour Chamor, une pour Zahor, et de lumière, c'est une pour Adam et une pour Chava. C'est la Askara de Adam et Chava. Je ne sais pas si vous savez ça. Vous savez ? Vous ne savez pas ? Ben apprenez. Quand vous allumerez vos deux bougies le vendredi soir, sachez que la Kavana, c'est l'anniversaire du premier homme et de la première femme qu'on célèbre en allumant deux veilleuses, un pour Adam et un pour Chava. Si on avait le temps, je donnerais beaucoup plus de détails là-dessus, mais je pensais que c'était cool. Ah bon, je reviens en tout cas au problème. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte ? Que le premier homme, sur les conseils de la première femme, a mangé une pomme, et depuis, tous les malheurs du monde se déversent sur le monde, parce que le premier homme a mangé une pomme. Dans la tête de qui ça rentre ça ? Je ne sais pas si c'est clair tout ce qu'il y a. Et on lit ça pieusement. Alors, qu'est-ce que font les juifs ? Le jour de Rosh Hashanah, ils prennent une pomme, ils la trempent dans le miel. Vous n'avez jamais remarqué ça. Bon. Alors, dans un cas, pourquoi je vous ai parlé de ça? Qu'est-ce que je disais? Oui, du Joseph. Il y a eu une faute à l'origine. Il faut l'entendre, je vais faire l'analyse en français, mais il faut l'entendre dans le sens hébraïque. L'origine de toute faute, quand il y a faute, c'est la faute du premier homme. C'est-à-dire, c'est pas ta loi qui est la loi, c'est la mienne. Qu'est-ce qu'il nous est raconté là ? Je ne rentre pas dans les détails du texte qui est incompréhensible si on n'est pas initié au Midrash. C'est qu'est-ce que ce texte veut nous faire comprendre dans le détail ? Mais enfin, qu'est-ce qu'il en ressort ? Quelle est la tentation que le serpent donne au premier homme ? Qu'est-ce que c'est ça, un serpent qui parle ? Il n'y a qu'une femme pour l'écouter. Mais enfin, qu'est-ce que c'est ça, un serpent qui parle ? Eh bien, oui, qu'est-ce qu'il faut être pieux pour lire la Bible ? Et alors, qu'est-ce que leur dit le serpent ? Ben, si vous mangez de ce fruit, vous serez comme Dieu en ce qui concerne la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire que vous trouverez les critères de ce qui est bien et de ce qui est mal en vous. Ça veut dire quoi ? Vous vous approprierez les critères de la loi morale. Ce n'est pas sa loi qui est la loi, c'est la mienne. Dans l'histoire de la philosophie, ça s'appelle l'humanisme. C'est l'homme qui décrète qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. C'est ça la faute du premier homme. Mais c'est ça exactement le commencement de toute faute. Quand je fais une faute, Dieu préserve, comme disent les rabbins, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je me conduis d'après ma loi et pas d'après la loi du Créateur. C'est ça la faute. Donc, c'est ça qu'on nous enseigne. C'est-à-dire qu'à l'origine de toute faute, il y a cette faute-là qui consiste à se rebeller contre la loi morale. Je pense que c'est clair. La première faute, c'est la révolte. La première faute, c'est la révolte, je nuancerai. La première faute, c'est l'ingratitude. Profiter du fait qu'on ait été créé libre pour jouer à l'être libre. Et comment on joue à l'être libre ? La révolte. Oui, c'est un problème de relation parentale entre père et fils qui se déclenche dès l'origine. Et alors, le Midrash nous enseigne que la première préoccupation du premier homme, de Adam Harishon, c'était de se demander si le repentir est possible. Parce que si le repentir n'est pas possible, dès le premier geste de vie, on est damné. Vous avez remarqué qu'en hébreu, le mot de vie, c'est Chaim. La première lettre du mot de Chaim, c'est Chet. Le commencement de la vie, c'est la faute. Est-ce que c'est clair ce que je dis ? Oubliez, hein, parce que ça donne le vertige. Et alors, dès que ça commence à fonctionner, on serait damné. Et vous voyez, quel est le contrepoison de ce poison ? C'est le repentir. Alors là, je vais raconter Midrash. C'est que lorsque David, qui a été le premier, rappelez-moi David, pourquoi j'ai parlé de David par association ? Vous me rappelez après c'est à la liste. Lorsque le premier homme a fait la faute, qu'il a faite, et puis il s'est aperçu que la lumière quittait le monde, que le monde entrait dans la déchéance, alors il était inquiet, il attendait. Et comment, on dit en français, rédimer cette faute. Mais la première préoccupation, c'est pas tellement l'obsession du péché, c'est le désir de la possibilité du repentir, que le repentir soit vraisemblable, soit possible. La vie n'est pas possible si on ne veut pas se repentir, parce qu'on sait très bien que le premier geste de vie, c'est tout, ça consiste d'abord à prendre quelque chose à quelqu'un. Si on étudie le fonctionnement du etc., c'est quoi ? C'est l'appétit d'être, l'appétit de jouissance. Et si on n'est pas nourri par les jouissances, on n'existe pas. Et donc, pour pouvoir exister, on est donné au risque de la faute. Si, surtout dans la vie moderne, qui est tellement sophistiquée, c'est caché, mais j'essaie de vous faire comprendre, et lorsque j'ai analysé cette analyse, je l'ai analysée en concept marxiste. Je crois que sur ce point, le discours marxiste reste authentique. Si je vais dans n'importe quel magasin pour acheter de quoi manger, eh bien je participe à une faute d'exploitation qui a eu lieu quelque part de quelqu'un sur quelqu'un. Le problème économique, le fonctionnement du problème économique fait que le pain que je mange, l'air que je respire, c'est entaché de faute. C'est-à-dire le fonctionnement de la vie, dès l'origine, fait que je suis donné au risque de la faute que je n'ai pas voulu faire. Et par contre, c'est parce que ça fonctionne comme ça que je suis pris au piège. Parce qu'il faut manger pour vivre, alors je suis obligé d'entrer, là il me manque un mot, d'entrer dans le coup, si vous voulez, du circuit économique qui est un circuit d'exploitation. Vous savez très bien que dès que le circuit économique s'embraye, il y a des riches et des pauvres. Comment c'est possible ? Eh bien c'est possible parce que le circuit économique, c'est le lieu du problème moral et nous avons été créés comme homo economicus pour avoir à résoudre le problème moral. Parce que chaque fois qu'il y a relation économique, alors un problème moral se pose. Est-ce que j'agis justement ou non ? Donc, vous voyez un peu ce qui s'enclenche là. Donc le premier souci du premier homme, c'est est-ce qu'il est possible de se repentir ? C'est-à-dire, un homme qui a l'exigence d'être juste est en souci perpétuel de conduite de teshuva. Parce que la vie mène à la faute qu'on n'a pas voulu faire. Je ne voudrais pas que vous entendiez ça autrement que je voulais le dire. Okay ? Nous sommes condamnés par le fait que nous sommes créés à être une capacité d'appétit de jouissance. Nous n'existons que parce que nous recevons l'être. Mais recevoir l'être sans l'avoir mérité, c'est ça le mal. Et alors, le seul moyen de mériter l'être qu'on le reçoit, c'est d'être capable de le redonner à son tour. Bon, c'est un sujet qu'on étudie d'autre part. Et alors, le souci du premier homme, c'est est-ce qu'on peut se repentir ? Alors, c'est lorsqu'il a rencontré Caïn, son fils. Et vous voyez comment Midrash va à l'essentiel. La faute du premier homme, c'est une faute entre l'homme et Dieu. Pas ta loi, mais ma loi. Mais la faute du deuxième homme, Caïn, c'est vraiment une faute morale. C'est une faute de l'homme vis-à-vis de son prochain. C'est Caïn qui supprime autrui. Et alors on apprend par le récit biblique que Caïn a fini par se repentir. Et alors, Caïn, le premier homme, a rencontré son fils, il a demandé, nous, qu'est-ce qui s'est passé entre le bon Dieu et toi ? Il a dit, on a fait un compromis. Ça veut dire que le repentir est possible. Le repentir de Caïn est le premier repentir historique. Caïn, après, lorsque Adam a appris qu'on pouvait se repentir, parce que Caïn est le témoin qu'on peut se repentir, alors il a fait lui aussi, il s'est repenti, et il a dit le psaume du Shabbat. Mizmor Shir Leyom HaShabbat, c'est le premier homme qui l'a dit, après qu'il ait reçu de Caïn l'enseignement qu'on peut se repentir. Bon, donc ça veut dire qu'il faudrait que nous prenions le temps pour étudier qu'est-ce qui s'est passé dans la faute de Caïn, et comment on sait que finalement, Caïn peut bénéficier d'un sursis, et que ce n'est que lorsque, effectivement, il a bénéficié d'un sursis, ce n'est que lorsque les conséquences de la civilisation qu'il a fondée arrive à saturation du mal, c'est là qu'on arrive au déluge, que cette humanité-là est condamnée. Mais elle est à l'abri de toute une série de sursis dont la Torah raconte les péripéties. Il y a 7 sursis qui sont donnés à la civilisation de Caïn jusqu'au moment où la saturation de violence a mené à la suppression de cette forme d'humanité par le déluge. Par exemple, la première notion que je voulais mettre en évidence, j'espère que c'est suffisamment clair, ça va nous permettre d'entrer maintenant dans le texte assez rapidement, c'est que la notion de repentir n'est pas une évidence de la pensée naturelle, pour deux raisons. D'abord, une raison de conception intellectuelle de la morale. Il y aurait une sorte d'injustice. Si je pense la morale d'après les lois de la raison, il y aurait une injustice d'après les lois de la raison, injustifiable, arbitraire, à ce que si une faute a été faite, qu'on puisse l'annuler. Si une faute a été faite, qu'on puisse compenser les conséquences de cette faute. Un juridisme de la loi de type loi romaine n'admet pas que le repentir soit possible. Il n'y a pas de prescription. Dans la mesure où je suis confronté à une loi impersonnelle, il n'y a aucune discussion possible avec la loi impersonnelle. Tu as fauté, il faudra que tu payes. L'idée que le repentir peut améliorer le dossier du fauteur est une idée non rationnelle. Et toutes les sociétés qui ont opté pour le juridisme légal sont en dehors, précisément, de cette notion de repentir possible. C'est un chidouche de l'hébreu, là, que le repentir soit possible. C'est-à-dire, la possibilité du repentir vient du législateur, vient pas de la loi. Devant la loi, il n'y a pas de repentir possible. C'est parce qu'il y a un législateur que le repentir peut être agréé. Là, je vous cite ce que dit le Talmud de Jérusalem, le Talmud de Yerushalmi dans Yoma. Il dit ceci. On a demandé à la sagesse, celui qui a fauté, quel est son sort ? La sagesse a répondu par un verset. C'est un verset des Proverbes. Le mal poursuivra celui qui a fait la faute. Il y a une sorte de justice immanente, inévitable, qui fait que celui qui a fait la faute sera rattrapé par le malheur. On a demandé à la prophétie, celui qui a fauté, quel est son sort ? La prophétie a répondu, la personne qui a fauté mourra. C'est-à-dire, on ne peut pas tricher avec la prophétie. C'est-à-dire, celui qui est vraiment responsable de la faute, eh bien, il n'y a pas deux sanctions possibles. Si la mauvaise volonté est arrivée à saturation de mal, alors cette personne, cette conscience est condamnée. On a demandé à Dieu, celui qui a fauté, quel est son sort ? Et Dieu a répondu, qu'il se repente et je lui pardonnerai. Mais la loi ne pardonne pas, c'est Dieu qui pardonne. C'est pourquoi toute cette mentalité qui croit, qui pense que confronté à la loi, il n'y a pas de salut possible, c'est une mentalité athée. Ça veut dire qu'on ne considère pas la loi comme étant la volonté du Créateur. Mais on considère la loi à la manière de la loi romaine, qui est un ensemble de principes légaux impitoyables. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire là ? Donc il y a déjà une première raison pour laquelle ce n'est pas une notion inhérente à l'esprit humain, la notion de repentir. Elle est le résultat d'une révélation des prophètes. Les prophètes nous ont révélé que le repentir peut être efficace. Alors on a surmonté cette impossibilité intellectuelle, rationnelle de la pensée naturelle. Je reviens à ce que je disais de la pensée naturelle. Elle peut être très, très sophistiquée. C'est pas la pensée primitive dans le sens négatif. C'est la pensée qui n'est pas informée par ce qu'a été la révélation unique. Bien. Et alors, il y a une deuxième raison. C'est la question de la réversibilité ou l'irréversibilité du temps. Il n'y a qu'en hébreu qu'on peut penser la réversibilité du temps, que l'on peut revenir au moment où la déviation a commencé pour restaurer cette déviation et reprendre la voie droite. Voilà ce que je veux dire pour conclure cette longue introduction. J'ai toujours l'imprudence d'entrer dans des introductions infinies. C'est que nous sommes tellement familiers à ce qu'a enseigné la Bible, que le repentir est possible, qu'on a perdu de vue que pour la pensée naturelle, il est impossible. Et donc, nous allons lire le texte qui parle de la possibilité du repentir. Du repentir, c'est une des manières d'approcher ce problème. Ça nous fait comprendre pourquoi seul Israël a accepté la Torah. Je ne vais pas étudier ce texte, ça me prendrait trop de temps. Alors on va étudier le premier texte que je vous ai indiqué, parce que quelle heure il est ? Il faut quand même qu'on ait pitié du sommeil du juste. Vous allez devenir juste après le repentir. C'est juste, n'est-ce pas ? Prenez le chapitre 4. Et on va étudier un point précis, c'est-à-dire l'importance de la liturgie collective du repentir. Alors prenez le chapitre 4, verset 7. Voilà ce que dit le verset. Qui mi goy gadol. Attendez, j'attends que vous ayez le texte sous les yeux. Qui mi goy gadol. Verset 7 du chapitre 4.
Page 24.
Page
24.
Bien fait. Voilà ce que dit ce texte. Qui mi goy gadol. Car quelle est cette grande nation Asherlo Elohim Kerovim Elav. Qui aurait des dieux proches d'elle, Kachem Elokenu, comme celui qui est notre Dieu, Bechol Korenu Ela, en tout ce en quoi nous l'invoquons. Et à propos de ce verset, le Talmud met en évidence une controverse avec un verset d'Isaïe. Un verset dit dans Isaïe, c'est le chapitre 55 d'Isaïe, Dirshu Hashem Beimatzeo, rechercher Dieu lorsqu'il se trouve. Je vous dis l'ensemble du verset. Dirshu Hashem Beimatzeo. Rechercher Dieu lorsqu'il est trouvable. Keraouhu, invoquez-le, biyotokaro, lorsqu'il est proche. Et voilà la Gemara, c'est dans la Gemara de Sanhedrin, met en évidence une. Non, c'est pas la Gemara de Rosh Hashanah, met en évidence une contradiction entre les deux versets. Le premier verset que j'ai lu dit que Dieu est proche de quiconque l'invoque. Sans restriction, et que c'est le cas d'Israël. Il suffit d'invoquer pour que Dieu soit proche parce qu'on l'a invoqué. Mais le deuxième verset, celui d'Isaïe, dit que Dieu n'est proche qu'à certains temps de l'histoire, qu'à certains temps de l'année. C'est le problème de la liturgie des Aseret Yom HaTshuva entre Shana et le jour de Kippour. Pourquoi à cette époque de l'année en particulier ? Le gamin répond, il n'y a pas de contradiction. L'un des versets concerne la conduite de la collectivité du tzibour. Lorsque le tzibour fait tshuva, l'autre des versets concerne le yachid, l'individu isolé du tzibour. Je vais surtout analyser cela. Alors j'explique. Le verset du chapitre 4 de la parasha de Vayetranan concerne l'invocation de la communauté, de la collectivité. Et je relis le verset, car qui est une grande nation ? Oui, une nation. Une nation, c'est l'ensemble du klal, de la collectivité, du tzibour, de la communauté, qui aurait des dieux proches d'elle. Et il s'agit des autres nations qui n'ont pas accepté la Torah, c'est-à-dire le problème moral comme critère du salut de l'histoire de leur destinée, c'est clair maintenant, okay ? C'est pourquoi le seul peuple qui est appelé Goy dans la Torah, c'est Israël. C'est très paradoxal ce que je vous dis là. Okay, je vous dis quel est le verset. Umi ke'am echa Israël, Goy echad ba'aretz. Et qui est comme ton peuple Israël, nation unique sur la terre. Vous entendez ce verset? Le seul Goy qu'il y a sur terre, c'est Israël. Pourquoi ça veut dire c'est la seule nation qu'on peut valablement appeler une nation? Parce que qu'est-ce que c'est qu'une nation valable? C'est un sujet qui s'étudie dans Talmud qui me prendrait trop de temps. C'est une nation qui a accepté comme constitution la loi morale. Il n'y a aucun peuple qui a accepté que sa constitution soit la loi morale. Donc il n'y a aucun peuple qui est digne d'être appelé une nation. La différence entre Am, un peuple, et Goy, une nation, c'est que la nation, c'est le peuple avec ses institutions. Est-ce que c'est clair la différence? Et donc, seul Israël a la dignité de s'appeler une nation. Les autres, c'est des peuples. Le paradoxe, c'est que en français, on dit Israël et les nations. Mais ça traduit « Umot ha'olam » et pas « Egoïm ».« Umot ha'olam »« Goya haaretz » d'un autre niveau. Bon, je ne vais pas rentrer dans un détail trop sémantique. Mais quand même, il y a un dit dans ce verset, « Et qui est comme ton peuple Israël, nation unique sur terre ?» Je vous le dis en hébreu, dans l'enseignement du Rav Kook. « Et qui est comme ton peuple Israël, goyechad ba'aret ?» Israël est une nation unie en Eretz, pas ailleurs. Dans la diaspora, elle est dispersée. Mais elle est une sur Eretz Israël. C'est écrit en hébreu dans le verset. Je répète le verset. C'est clair? On est vrai. Okay. Alors voilà. Alors que pour l'individu, et l'invocation est efficace lorsqu'on est dans les temps de proximité. Alors là, ce qui se dévoile, c'est bien clair, hein, je répète rapidement. Lorsque Israël est en nation, alors l'invocation. Il n'y a aucune condition. Et vous voyez pourquoi les invocations ne sont pas répandues. C'est pas du français. Pourquoi les invocations ne sont pas efficaces? C'est parce qu'elles ne sont pas celles de la collectivité unie. Et dès qu'il y a faction, dès qu'il y a pilou, dès qu'il y a michlagot, dès qu'il y a diaspora interne, alors la voie est arrêtée. Et là, c'est un sujet qu'il suffit d'indiquer comme ça pour qu'on perçoive son importance. Je vais vous apporter une histoire des chassidim. Les chassidim racontent qu'un jour, un rosh yeshiva est rentré dans sa yeshiva, dans la synagogue de sa yeshiva, puis arrive à la porte, n'arrivait pas à rentrer. Et alors, ses élèves l'ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, je peux pas rentrer. C'est plein de prières, ça m'empêche de rentrer. Les prières n'étaient pas montées, elles s'étaient accumulées. Et ça empêchait le rabbin d'entrer. Pourquoi? Parce que la prière qui est exaucée, c'est la prière de la collectivité comme collectivité. Je vais vous dire un rite qui est resté dans les communautés sfarades de langue espagnole. Je ne sais pas s'il y a des sfarades de langue espagnole parmi vous. Avant de dire la prière en commun, chacun se tourne vers les autres, se salue de la main, en pensant tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire, avant d'avoir le droit de prier ensemble, il faut faire la paix. Il faut être certain que la communauté est construite. Vous connaissez ce rite-là? De quelle synagogue vous appartenez?
Je suis originaire de Turquie.
Mais en quelle synagogue? Vous êtes en France?
Ah oui, maintenant je suis en France. J'étais en France
aussi. Ah non, vous êtes en Israël. Mais si jamais vous avez prié à la synagogue Saint-Lazare, des fois, ou à la Roquette.
Ah, Roquette,
oui. Oui, ben ça se faisait encore il y a longtemps.
Il y avait
oui.
Banco aussi.
Hein?
C'était
Rue de Banco
avant.
Rue de Banco, il y a fait. Eh bien, quoi qu'il en soit, les chassidim aussi connaissent cette cavana de la prière. Eh bien, quoi qu'il en soit, l'idée est très claire. Ça veut dire que la prière n'est authentique que si la communauté est authentique. Le principe qu'il y a là, c'est qu'on n'a pas le droit de prier dans une synagogue où on a un ennemi, ou du moins où on est l'ennemi de quelqu'un. Sinon, on se moque de qui? On va prier ensemble, alors qu'il y a des zizanis. Vous avez compris, vous voulez? C'est-à-dire, si c'est le tzibour, si c'est la communauté qui prie, elle est entendue. Si c'est l'individu, c'est beaucoup plus difficile. Là, il y a des règles, il y a des conditions, il y a des exigences. Je crois que l'idée est suffisamment claire. Et alors, je terminerai, parce que vraiment, il est tard, je suis désolé de la longueur de l'introduction. Il faudra que, à qui pour, je me repente de ces introductions. Bon, moi, je vais être introduit. Eh bien, c'est pas grave. J'espère que vous avez appris ce qu'il fallait apprendre. Quoi qu'il en soit, je vous citerai simplement la définition de ce que c'est qu'un tzibour. Je vous l'écris pas au tableau, mais visualisé. Le mot de tzibour, il y a quatre lettres. Tzadé, bet, var, resh. Alors, ce que les chassidim m'ont enseigné. Tzibour, c'est tzadikim, tzadé, les justes, benonim, les moyens, urshaim, et les méchants. C'est-à-dire, il faut que tout le monde soit là pour que la collectivité soit là, pour que la communauté soit là. C'est très important de comprendre ça. Vous savez, le judaïsme refuse cette notion de la communauté des parfaits, la communauté des justes. Une communauté où il n'y a que des justes, ce n'est pas une communauté. La vraie communauté, il y a tout le monde. J'insiste, ne croyez pas, c'est une clause de style. C'est très important de comprendre ça. Une synagogue où il n'y a que des tzadikim, ce n'est pas une synagogue. Je ne sais pas si c'est clair sur les deux. La seule synagogue cachère, c'est le Kotel, parce qu'il y a même des touristes. Il y a tout le monde. Mais pour vous dire que je pense qu'il faut bien comprendre ça. Alors je vais essayer de l'expliquer, on s'arrêtera là. Parce que, qu'est-ce que c'est qu'Israël ? Israël, ce n'est pas une église, ce n'est pas une synagogue, ce n'est pas une communauté d'élite. Bien qu'en français, on est trompé. Israélite. On est quand même élite. Mais enfin, ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas élitiste que ce que je veux dire. Parce que ce n'est pas à travers l'individu que l'humanité reçoit le message du salut. C'est à travers une collectivité. Parce que l'humanité, c'est un universel. Et il n'y a qu'une collectivité qui peut représenter l'universel. Donc, Dieu n'a pas choisi une église, Dieu n'a pas choisi une synagogue, Dieu a choisi un peuple. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. C'est-à-dire, un peuple représente l'universel humain, en tant que peuple, pas en tant que communauté des saints. La communauté des saints ne représente que les saints. Je ne sais pas si c'est clair. Or, ce qui est en question, c'est le salut universel. Ce n'est pas le salut des saints. C'est le salut... C'est aussi le salut des saints, mais bien entendu. Mais c'est le salut de la création du Créateur. Et ce que cherche le Créateur, c'est que sa création soit sauvée. À travers qui cela peut passer? Encore une fois, pas à travers un ensemble d'individus, salut personnel, à travers une collectivité. Parce que seule la collectivité représente l'universel. Je pense que j'étais suffisamment clair. Lorsqu'après la fameuse faute du veau d'or, à la génération du désert, Dieu propose à Moïse de fonder une religion qui se substituerait à la nation d'Israël, Moïse refuse. Parce que Moïse sait très bien que ce n'est pas le plan de Dieu. Je vous rappelle les versets. Quand Moïse dit, je vais annuler ce peuple parce qu'il a fauté, et de toi je ferai sortir une grande nation. Moïse plaide en disant, rappelle-toi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob à qui tu as promis leur descendance. Vous voyez la difficulté qu'il y a ici, c'est que même si une nation sort de Moïse, elle sort par la même d'Abraham, Isaac et de Jacob. Moïse est un des descendants d'Abraham, Isaac et de Jacob. Mais c'est très différent, les pères et le maître. Entre la nation qui sont les enfants d'Israël, qui sont les fils des pères, et ce que serait l'église de Moïse, les disciples du maître. Je ne sais pas si vous voyez la différence, Ken. Vous voyez cette tentation que Dieu propose à Moïse. On va changer de stratégie. Au niveau du peuple, ça ne marche pas, on va faire une église. Moïse refuse. Il sait très bien quel est le plan de Dieu. Et j'espère, bien que très rapidement, avoir été suffisamment clair sur ce point, parce que c'est malheureusement une hérésie mettez le mot d'hérésie entre 13 guillemets. Pourquoi 13 14. J'avais 70. Qui envahit certains milieux juifs. Il y a des juifs qui pensent que Dieu a créé une synagogue et a mis un monde autour. Alors ce que la Torah enseigne, c'est que Dieu a créé un monde. Et dans le monde, il a mis une synagogue. C'est très différent comme perspective. Est-ce que c'est clair ce que je dis ? Alors c'est exactement le problème qui se pose à nous. C'est quand le tzibourg fait appel, l'appel est entendu. L'individu, alors, il faut se brancher sur les moments de proximité. Lorsqu'il y a commémoration de la création du monde, où il était très proche de son monde, là, peut-être, la voix de l'individu est entendue. Ceci pour vous dire que c'est une conduite naturelle dans la religion juive, en tout cas. C'est que c'est parce qu'on est en commun à la synagogue le jour de Kippour qu'on est conforté que cette prière peut passer, elle a une porte par où passer. Et c'est pourquoi c'est très important de prier dans un milliard de nombreux le jour de Kippour. Je ne sais pas si vous savez qu'en principe, la prière, il faut au moins 10 personnes, mais à Kippour, il faut au moins 2 minyanim pour que la prière soit cachère. Je ne sais pas si vous savez ça. Rosh Hashanah aussi, d'ailleurs. Je m'excuse pour tout à l'heure, j'ai laissé votre question en suspens.
Ah, ma question, c'était en quoi la faute du premier homme est un problème moral. Et j'avoue qu'après tout ce que vous avez dit, je n'ai pas compris. Parce que si le pardon a été créé avant la création du monde, à ce moment-là, si Adam n'avait pas fauté, il aurait besoin de créer avant.
Non. La possibilité du repentir, j'ai pas dit le pardon, la possibilité du repentir est émanée, c'est pas créé avant la création même du monde. Qu'est-ce que ça veut dire, la faute du premier homme est une faute d'ordre moral? Qu'est-ce que c'est que le problème moral? C'est d'obéir à une valeur transcendante, il y a une loi qui me transcende. Alors quelle a été la faute du premier homme? Reprenez l'analyse que j'ai faite tout à l'heure, c'est de dire c'est pas ta loi qui est la loi, c'est ma loi. Je me conduis comme moi je veux, pas comme toi tu veux. Rappelez-vous le verset, qu'est-ce que le serpent a dit au premier homme? À la femme. Elle dit, vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Vi'item keloim yodai tovarar. Mimenu la da'at tovarar. C'est de vous que sortira le critère de la moralité. Il s'agit du problème moral, du bien et du mal. Il ne s'agit pas d'autre chose. Et on reparlera ça peut-être une autre fois. Ne croyez pas que... Je ne sais pas, moi, vous avez cette mentalité-là. Vous savez que nous séparons le lait et la viande dans la nourriture. Il y a des raisons très importantes pour ça. Et ça s'étudie. Bon, et ça va jusqu'au point qu'il ne faut pas mélanger les ustensiles qui servent à la vaisselle pour le lait et les ustensiles qui servent à la vaisselle pour la viande. Seulement, cette mentalité qui croit que si on a mis en contact une fourchette de lait et une cuillère de viande, il va y avoir une explosion atomique. C'est de la superstition. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais je suis au bout de ça. Ce n'est pas là-dessus que l'humanité est jugée. C'est sur la conscience morale. Si j'ai dit que ça ce soir, c'est important de s'en souvenir. Relisez la Bible. Bien. Alors, oui, j'en prie, oui.
Quand une partie de la nation refuse l'héritage de la terre et de la Torah, est-ce qu'elle prend encore sa place Israël, ou alors est-ce que c'est une favorite ou c'est une usurpation de
Dieu ? Justement, elle est encore à l'abri du mérite des pères, de l'alliance des pères, mais la question est très importante. Je veux dire, le problème auquel on est confronté, c'est précisément cet éclatement des critères. Le grand argument, c'est que peut-être pour l'idéal de la paix, on peut abandonner n'importe quoi. C'est ça le grand danger. Alors je vais vous dire quel est le verset qui répond à cela. Parce que j'entends ça dans beaucoup de milieux. C'est vrai, on se mutile, c'est vrai, l'État juif risque d'être un État judéo-arabe. C'est vrai que la terre d'Israël, ça risque de devenir la terre sainte des Arabes. Et c'est vrai, on est sur le chemin avec le gouvernement actuel. Grâce à Dieu, nous avons une longue histoire. Et 4000 ans, on a l'expérience de ce qui arrive quand on dérape, quand on déraille, quand on je sais pas quoi. Nous avons une expérience rabbinique. Je n'ai pas fait allusion à Rabbi. Mais en tout cas, il est bien nommé celui-là. En tout cas, voilà quel est le verset. Osé shalom ivromar. Oui, asé shalom alenu, ve'al kol Israël. Que celui qui fait la paix dans les hauteurs fasse la paix sur nous et sur tout Israël. Si ce n'est pas la paix sur tout Israël, ce n'est pas la paix. Or, la paix qu'on nous prépare, c'est une paix qui n'est pas pour tout Israël. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit là. C'est pas clair ? Ah, c'est clair. C'est pas clair pour tout le monde ? Bon. Alors, c'est ici qu'il y a le danger. Et d'ailleurs, nous sommes en train de nous préparer un jugement de l'histoire qui est très grave. Parce que la politique actuelle consiste à, je cherche mes mots, mais abandonner toute une série de populations. Et surtout chez les Arabes. On est en train d'abandonner tous les Arabes qu'on avait voulu intégrer à l'entité israélienne. Qu'ils soient arabes israéliens ou arabes palestiniens, méchant fait peroula, comme on dit. Ceux-là, ils sont abandonnés. On est en train de se préparer à abandonner tout le Liban du Sud, les habitants du Liban du Sud, qui seront égorgés par les Syriens. On est en train d'abandonner toute une partie de la population israélienne des territoires, entre guillemets. On est en train d'abandonner énormément de gens, et avec caractère imperturbable, c'est le prix des victimes de la paix. Voilà dans quel est le verset. Et il y a cette idée de l'unité, tant que ce n'est pas le salut de l'ensemble, c'est le salut de personne. Et voilà le problème. Mais je crois que, pour répondre un peu plus à ta question, ben, ce sont des questions brûlantes, on va y penser le jour de Kippour. Hein, parce qu'on aurait tendance à dire, ce jour-là, pardonne-leur. Mais d'Afrika, je crois qu'il faut demander, ne leur pardonne pas. Je vais revenir au sujet. Vous savez, il y a eu quatre motivations différentes du sionisme qui a mené à l'État juif. Ça, je vous résume un peu ce qui s'est passé pendant les 200 dernières années de l'histoire juive. Et cette différence des motivations que je vais énumérer était camouflée par deux réalités. D'abord le fait que nous étions une société de rescapés et une société assiégée. Et dans une société assiégée, il y a une solidarité inconditionnelle des membres de la société assiégée, quelles que soient les divergences idéologique. Et deuxièmement, il y avait une espèce de jubilation de se retrouver entre rescapés de 120 exils au bout de 2000 ans et en hébreu. Je ne sais pas si vous rendez compte ce que ça peut représenter, le rassemblement des juifs du monde dans l'État d'Israël en gestation. Nous avons vécu cela dans notre jeunesse. On rend les juifs de partout, et derrière les juifs de partout, il y a les civilisations de partout, et on se met à parler ensemble hébreu, dans une société assiégée. Alors il y avait une solidarité inconditionnelle qui a masqué le fait qu'il y avait quatre motivations différentes qui a mené à l'État juif. Il y avait d'abord des juifs qui ont voulu fonder Israël pour ne plus être juifs, parce qu'on ne les laissait pas s'assimiler chez les goyim. Ça ne s'est pas passé en Europe occidentale, ça s'est passé en Europe centrale, en Europe orientale. L'Europe occidentale pouvait accepter l'assimilation des juifs, l'assimilation à la société française, allemande, anglaise, italienne, il n'y avait pas de juifs. Dans l'Europe orientale, dans l'Europe centrale, il y avait tellement de juifs qu'on ne les laissait pas s'assimiler à la société ambiante. Alors ils ont décidé de venir, de quitter l'identité juive, qui était l'identité de la persécution, l'identité des ghettos, l'identité d'une histoire à laquelle il fallait mettre fin au niveau sociopolitique, de venir en Israël ne plus être juif. Ça, c'est les pionniers. Puis en même temps, il y avait ceux qui voulaient être hébreu en Israël pour être pleinement juif. Ça, c'était les sionistes religieux. Puis il y avait une troisième partie qui refusait l'aventure du sionisme, mais qui en profitait pour pouvoir vivre en Terre Sainte. Ça, c'est les orthodoxes anti-sionistes. Mais une quatrième partie, c'était des juifs cosmopolites, même en hébreu. Et c'est ceux-là qui ont le pouvoir actuellement. C'est clair ? Bon. Alors, ceci dit, c'est ces quatre parties d'Israël qui forment Israël ensemble. Seulement, il faut redistribuer les perspectives d'identification. Je suis persuadé que le seul bien, si on veut, et bien qu'on retiendra la période actuelle, c'est que ça nous a permis de nous fournir des critères de tri de rassemblement. On va se rassembler autrement qu'on s'était rassemblé les 50 dernières années. C'est bien évident. Et puis ça va faire mal, les déchirures. Mais ne croyez pas que ça passe entre religieux et non religieux. Ça passe entre sionistes et non sionistes. Et dans les deux cas, il y a des religions. Je pense que c'est bien clair. Donc, ça va faire mal, mais c'est inévitable. Alors, en fin de compte, bon Kippour. Et je signale, pour ceux que ça intéresse, que nous aurons, je vais dire demain matin, mais tout à l'heure, à 3h30 du matin, les prières de Slichot ici. Alors, à bientôt. À bientôt, Christine.